Un employé d'une grande entreprise avait pour habitude de parler tout seul à voix haute dans son bureau. Ce jour-là, alors que le PDG passait dans le couloir, il entendit son employé qui disait: Si seulement j'avais 1000 euros de plus, alors je serais vraiment heureux. Interpellé par ce monologue qu'il venait de surprendre, le grand patron entra dans le bureau et dit: J'ai entendu ce que vous venez de dire et ça m'a touché. J'ai décidé de vous faire de suite un chèque de 1000 euros car je désire que mes employés soient vraiment heureux. Petite parenthèse, ça c'est du patron. L'employé n'en revint pas. Il était vraiment aux anges. Mais à peine son patron avait-il quitté son bureau qu'il pensa: Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas souhaité 2000 euros? Cette petite histoire met en évidence au moins deux choses. D'une part, la difficulté du contentement, et d'autre part, la réalité de l'illusion qu'avoir plus, c'est forcément être plus heureux. En fait, nous l'avons sans doute tous déjà constaté, vouloir et avoir plus est en réalité un cercle vicieux, sans fin, qui apporte souvent plus d'insatisfaction que de bonheur. Et dans le passage de ce matin, dans notre série sur le prophète Élie, nous allons rencontrer au début du récit quelqu'un qui en veut plus, quelqu'un qui n'est pas satisfait avec ce qu'il a, quelqu'un qui pourtant possède déjà beaucoup, quelqu'un dont l'insatisfaction, le mécontentement de ne pas obtenir ce qu'il désire, ce qu'il convoite, va entraîner de nombreuses conséquences mauvaises. Et je vous invite à lire ou à suivre la lecture, une première lecture du passage de ce matin qui va s'afficher à l'écran. Nous sommes dans le premier livre des Rois, au chapitre 21, et je lis les quatre premiers versets. 1 Rois 21, versets 1 à 4. Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth: Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel: Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Depuis le passage de la dernière fois, il y a 2 semaines, il s'est passé plusieurs années, peut-être 6 ans, plusieurs années pendant lesquelles le roi Akab va faire la guerre au roi de Syrie, le roi Ben-Hadad. Et c'est le roi Akab qui va remporter la victoire. Et si vous voulez, vous pourrez lire ce récit, c'est le chapitre qui précède le chapitre 20. Le récit de ce matin, nous venons de le voir, se passe dans une ville, la ville de Jizréel, dont nous avons déjà parlé dans cette série. C'est là que le roi Akab possédait un palais, un autre palais, une résidence secondaire. Or, lors d'un des séjours d'Akab à Jizréel, celui-ci décide de demander à Naboth, un certain Naboth, qui possédait une vigne attenante à son palais, de la lui vendre. Le désir d'Akab, c'est notre premier point dans ce récit. Verset 2, Akab parla ainsi à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » L'offre semble honnête, généreuse même, puisque le roi propose à Naboth, en échange de sa vigne, une vigne meilleure ou une somme d'argent équivalente. Que va faire Naboth ? Certains pourraient penser que l'offre du roi ne pouvait pas se refuser. Pourtant, Naboth dit non au roi. Le refus de Naboth, c'est notre deuxième point dans le récit. Verset 3, « Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Voilà une réponse à laquelle Akab ne devait pas s'attendre. Une réponse courageuse, puisqu'elle contrarie les désirs du monarque. Une réponse courageuse, puisqu'il n'est pas donné à tout le monde de dire non, de s'opposer à son roi. Mais pourquoi Naboth a-t-il dit non ? Quelle était sa motivation ? Voulait-il, par exemple, par ce refus, faire monter le prix de son terrain ? La réponse à notre interrogation se trouve dans les paroles de refus de Naboth. Des paroles qui nous font comprendre que la motivation de Naboth est avant tout une motivation religieuse. Verset 3, « Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Naboth ne veut pas perdre son héritage, sa part dans le pays promis, une part qui lui revient de droit, une part qu'il a reçue de ses pères, une part qui doit rester dans le clan familial, dans sa tribu. C'est une part inaliénable, invendable, une part qu'il devra transmettre à sa descendance, une part que la loi lui garantit dans des passages comme celui de Lévitique 25, versets 23 à 28, par exemple. C'est donc par obéissance à la loi, par obéissance à Dieu, que Naboth refuse de vendre sa vigne à Akab. Passons au troisième point. Le troisième point du récit, le complot de Jézabel. Akab aurait dû connaître la loi, il aurait dû savoir toutes ces choses. Il est fort probable qu'il le savait, et il est fort probable aussi qu'il n'en avait pas grand-chose à faire. Quoi qu'il en soit, le refus de Naboth va plonger le roi dans un profond désarroi, tout d'abord dans une grande colère, et puis ensuite dans une étrange attitude. Je vous invite à poursuivre la lecture de notre récit. Nous reprenons au verset 4. Et je lis jusqu'au verset 10. Akab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël ? » Lève-toi, mange de bon cœur. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes. « Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Que fait Akab suite au refus de Naboth? Verset 4, Akab rentra chez lui, maussade et furibond. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Akab rentre chez lui furieux, en colère. Et puis, comme un petit enfant à qui on a refusé son jouet, il va bouder dans sa chambre, dans son lit, et refuse de manger. Le roi Akab fait un caprice. Quelle scène pathétique. Akab devait être habitué à avoir tout ce qu'il désirait d'un seul claquement de doigts. Il devait être habitué aux courbettes, à ce que tous ses caprices soient exécutés rapidement. Comment ce Naboth, ce nabo de Naboth, ce moins que rien, pouvait-il lui refuser sa vigne? N'était-il pas le roi? C'est exactement cette corde-là, n'était-il pas le roi, que Jézabel va jouer au verset 7, quand elle dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerce la royauté sur Israël? Allez, bouge-toi, t'es le roi quand même, te laisse pas faire. » Et Jézabel prend les choses en main, une fois de plus, pourrions-nous dire. Jézabel qui commence par essayer de motiver son mari, en lui rappelant qu'il est le roi, et puis en lui promettant la vigne de Naboth. Toujours au verset 7, « Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, » dit-elle. Akab nous apparaît ici comme faible, lâche, démissionnaire et irresponsable. Il s'en remet totalement à sa femme. Il ne semble pas se soucier de la manière dont elle obtiendra ce qu'elle lui promet. Pour lui, peu importe les conséquences, tant qu'il prend possession de la vigne qu'il convoite. Ajoutons ici qu'Akab a peut-être, sans doute, volontairement orienté les choses en omettant de dire la vraie raison du refus de Naboth. Regardez le verset 6. « Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. » Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Akab ne parle pas de la raison évoquée par Naboth en lien avec l'obéissance à la loi. Et ce qu'il dit à Jézabel laisse à penser que le refus de Naboth est arbitraire, injuste et capricieux. Il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne ». Il est fort probable qu'Akab savait les leviers qu'il devait actionner pour faire réagir sa femme. Et ça marche, puisque Jézabel, sans état d'âme, prend les choses en main et lui promet la vigne tant convoitée. Et pour Jézabel, à l'évidence, la fin justifie les moyens. Et c'est ainsi qu'elle va comploter, falsifier, tricher, mentir et j'en passe. Elle fera tout ce qui est nécessaire pour parvenir à ses fins, pour obtenir ce qu'elle veut. C'est ainsi que les anciens, les magistrats de la ville sont mis à contribution par des lettres qu'elle écrit de la part du roi en leur demandant d'organiser un jour de jeûne, d'y convoquer Naboth, de le placer à la place d'honneur et de placer en face de lui deux vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et maudit le roi. Pourquoi deux témoins ? Tout simplement parce que la loi exigeait le témoignage de deux témoins pour que l'on puisse proclamer la peine capitale. Et la fin du verset 10 est sans ambiguïté, « Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Le piège est tendu. La souricière est armée. L'affaire est dans le sac. C'est implacable. C'est imparable. En apparence, tout est légal et vrai, mais en réalité, tout n'est que tricherie et mensonge. Et le pauvre Naboth, qui ne se doute de rien, n'aura pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, que la chose sera déjà réglée. Poursuivons notre lecture au verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait envoyé dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les deux vauriens vinrent s'asseoir en face de lui, et ces deux vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la donner pour de l'argent. » Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Le plan diabolique, mijoté par Jézabel, est mis à exécution. Et Naboth est mis à mort comme un infâme criminel. La mort de Naboth, c'est notre quatrième point dans le récit. Quelle injustice! Quelle profonde injustice! Le juste meurt et le méchant reste en vie. C'est pas Hollywood, ça. Quelle injustice! Naboth est mort. Naboth est mort pour avoir fait ce qui est juste aux yeux de Dieu. Pour avoir cherché à obéir à Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire Jézabel ? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Naboth est donc mis à mort dans l'indifférence générale, même celle de Dieu en apparence. Et avec le concours d'hommes qui vivent dans la crainte de la despote Jézabel. Jézabel qui pense à tout, c'est une femme d'affaires, qui assure ses arrières, puisque dans le deuxième livre des rois, nous comprenons qu'elle fait aussi mettre à mort les fils de Naboth. Pourquoi ? Sans doute pour que personne ne puisse jamais réclamer l'héritage qu'elle vient de voler à cette famille. À peine la nouvelle de la mort de Naboth arrive-t-elle au palais, qu'Akab se rend à la vigne de Naboth, c'est juste à côté, pour en prendre possession. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. C'est la triste banalité des milliers, des millions d'injustices qui ont lieu jour après jour sur cette terre. Mais si les apparences penchent du côté de l'indifférence générale, même celle de Dieu, en fait, il n'en est rien. La sentence divine, est notre cinquième point dans le récit. Et je vous invite à lire encore quelques versets, à partir du verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, qui est à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle l'Éternel. Quoi ? Tu as commis un meurtre et tu prends possession ? Et tu lui diras ainsi parle l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Et il répondit, « Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Me voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, je retrancherai même le moindre de ceux qui appartiennent à Akab, celui qu'on retient et celui qu'on relâche en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Aïa, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel a parlé aussi pour Jézabel, et il a dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y excitait. Il a agi de la manière la plus horrible, se ralliant aux idoles, tout comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel avait dépossédé devant les Israélites. Non, Dieu n'était pas indifférent à tout ce qui se passait. Et c'est la raison pour laquelle il envoie une fois de plus Élie à la rencontre du roi Akab. Élie pour confronter Akab. Élie qui a disparu des radars depuis l'épisode du mont Horeb. Sans doute était-il occupé à préparer la relève avec Élisée, que Dieu avait désigné comme son successeur et qui est devenu son assistant, un petit peu comme Josué avec Moïse. Et vous trouverez quelques éléments de cela à la fin du chapitre 19 de ce même livre des Rois. Dieu donc envoie Élie vers Akab avec un message. Un message qui lui sera délivré dans la vigne volée, puisque c'est là qu'Élie doit rencontrer le roi. Et que dit ce message ? Il annonce un jugement de Dieu, un jugement de Dieu à venir, jugement sur Akab qui va mourir et dont le sang sera léché par les chiens là où celui de Naboth l'a été. Jugement sur sa famille, qui sera exterminée comme l'a été celle de Jéroboam et celle de Baécha, tous les deux rois d'Israël. Jugement sur Jézabel, dont les chiens mangeront le cadavre près des remparts de Jizréel. Non, le crime odieux de Naboth ne restera pas impuni. Dieu a tout vu. Dieu a tout entendu. Il sait tout. Et l'heure des comptes a sonné. Face à la méchanceté d'Akab et de Jézabel, Dieu dit, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Un sixième et dernier point, avant de réfléchir à quelques prolongements. Et ce sixième et dernier point est inattendu, il concerne la repentance d'Akab. Je lis encore les versets 27 à 29. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son dos et jeûna. Il couchait avec ce sac et marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Nous n'allons pas nous mentir. La repentance d'Akab est une surprise. C'est une grosse surprise. On pouvait tout imaginer, sauf ça. Quoi qu'il en soit, nous constatons qu'Akab a pris au sérieux les paroles d'Élie. Alors oui, il y a eu quelques précédents. Oui, Akab a pu se rendre compte que la parole de Dieu dans la bouche d'Élie devait être prise au sérieux. Et c'est ce qu'Akab a fait. Il a pris Dieu au sérieux. Alors peut-être que vous vous dites qu'Akab ne méritait pas le pardon de Dieu. Et je vais vous dire une chose, vous avez raison. Personne ne mérite le pardon de Dieu, ni Akab, ni nous. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu, un cadeau immérité. Un cadeau que Dieu nous offre gratuitement et qu'il offre à quiconque, quiconque se repent. Et Akab s'est repenti. Et si Dieu en a tenu compte, comme nous pouvons le lire dans ce texte, c'est qu'Akab était sincère, forcément sincère. Dieu l'aurait vu. Et Dieu lui accorde le pardon et lui accorde un report de sentence. Oui, Dieu a pardonné à Akab, mais il devra quand même faire face aux conséquences de son péché. Nous passons maintenant, après avoir survolé ce texte, à quelques prolongements, quelques lignes que j'aimerais tirer à partir de ce que nous venons de voir, quelques principes et quelques remarques. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que la bonté de Dieu implique forcément sa justice. La bonté de Dieu implique forcément sa justice. Nous aimons parler de l'amour de Dieu. Dimanche dernier, nous avions une prédication sur l'amour de Dieu. Ça nous fait du bien. Nous aimons ça. Nous aimons l'idée que Dieu soit amour. Mais dès qu'on parle de sa justice, dès qu'on parle de ses jugements, les choses se compliquent et ça nous plaît quand même un peu moins. Pourtant, la bonté de Dieu sans justice serait-elle encore de la bonté ? Je vais le dire autrement. Si Dieu était injuste, est-ce qu'il pourrait être bon ? Si Dieu était injuste, est-ce qu'il pourrait être bon ? En fait, la bonté de Dieu est bonté, entre autres, parce que Dieu est juste. Oui, Dieu nous fait grâce parce qu'il est bon, mais il ne pourrait pas être bon s'il n'était pas aussi juste. Et c'est pourquoi, si nous parlons de l'amour de Dieu, nous devons aussi parler de sa justice, de sa colère contre le péché et de ses jugements. C'est le premier point, la première chose que je voulais dire et rappeler. La deuxième, c'est que la patience de Dieu est limitée. On se dit parfois, peut-être, et à tort, qu'elle est illimitée, mais non. La patience de Dieu a une limite, toujours. Nous sommes pécheurs et notre péché est une révolte, une offense au Dieu trois fois saint, au Dieu créateur. Et le jugement de Dieu devrait en réalité nous atteindre à l'instant même où nous péchons. Mais Dieu use de patience envers les hommes, envers nous et envers les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il est lent à la colère, nous dit l'Écriture, et parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître. Mais il arrive toujours un moment, un jour, où Dieu, qui est juste, exerce sa justice. Un jour où Dieu demande des comptes. Un jour où Dieu, comme dans notre passage, dit « Maintenant, ça suffit ». Oui, la patience de Dieu est limitée. Et parfois, cela est visible dès ici-bas. Mais pour beaucoup de situations, pour la grande majorité des situations, cela se passera lors du jugement dernier. Et ça nous amène à la troisième remarque, au troisième point. Il y a un jugement à venir. En effet, un jour est marqué dans le calendrier de Dieu où chaque homme et chaque femme devra rendre des comptes à Dieu pour sa vie. Et c'est ainsi que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Notons au passage que l'idée de la réincarnation est complètement évacuée ici. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Après quoi vient le jugement ? Oui, il y a un jugement à venir. La Bible en parle abondamment. Et personne s'il n'est pas en Christ, ne peut s'y soustraire, pas même les puissants de ce monde. Et un jour, le grand livre des comptes sera ouvert. Un jour, tout sera dévoilé. Un jour, au jour du jugement dernier, toutes les injustices seront jugées. Vous le savez comme moi, notre monde est marqué profondément par l'injustice. C'est monnaie courante, c'est tellement courant. Et bien des injustices, à l'instar de celles de notre texte, semblent rester impunies. Et ces injustices ne vont pas sans soulever quelques questions, comme celles qui sont soulevées par notre texte. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que Naboth le juste meure ? Je ne sais pas si vous avez la réponse, moi pas. Pourquoi le juste est-il mort et le méchant resté en vie ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté Jézabel à temps ? Pourquoi Dieu a-t-il tant tardé à agir ? N'était-il pas plus simple, plus juste, d'empêcher Jézabel de nuire dès le départ ? Chers amis, ces questions difficiles, soulevées par les injustices de notre monde, m'amènent à faire trois remarques, à dire trois choses importantes. La première, c'est que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, et nous devons garder cela à l'esprit. Dieu agit parfois, souvent même, d'une manière qui reste mystérieuse pour nous, et qui le restera tant que nous serons ici-bas. Ça, c'est la première chose. Nous ne comprendrons jamais tout, et certainement pas ces questions que je viens d'évoquer. La deuxième chose que je voulais dire ici, c'est que marcher par la foi, c'est faire confiance à Dieu aussi quand nous ne comprenons pas les voies de Dieu. C'est faire confiance à Dieu aussi quand nous faisons face à l'injustice. C'est aussi ça, marcher par la foi. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que nous pouvons vivre cette confiance malgré tout, cette confiance malgré les choses injustes, parce que nous avons une espérance. Parce que nous avons une espérance. Sinon, ça serait œil pour œil et dent pour dent, hein, pourquoi se laisser faire après tout? Mais nous avons une espérance, l'espérance de la justice qui sera rendue au jour du jugement dernier. L'espérance de la justice du Christ dont nous avons été revêtus par la foi et qui nous caractérisera parfaitement dans la gloire. L'espérance de la justice qui caractérisera notre vie éternelle. C'est l'apôtre Pierre qui l'évoque dans ce verset bien connu de sa deuxième épître. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Où la justice habitera. C'est peut-être un de mes versets préférés. « Où la justice habitera. » Chers amis, il y a un jugement à venir. Un jour où Dieu remettra toutes les pendules à l'heure. Un jour où Dieu jugera le monde qu'il a créé et qu'il a rejeté. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes en Christ, si vous êtes en Christ, ce jugement à venir ne vous concerne plus parce qu'il n'y a plus de condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile que Dieu offre à chacun. Mais si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas en Christ, alors vous êtes concernés. Et ma question pour vous est celle-ci. Quel effet cela vous fait-il de savoir qu'un jour, vous devrez rendre des comptes à Dieu? Devant l'annonce du jugement à venir, Akab s'est repenti. C'est tellement improbable. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous si vous n'êtes pas dans la foi en Christ? Et ça m'amène à notre quatrième et dernier point dans cette conclusion qui concerne la repentance. Aujourd'hui, il est encore possible de se repentir. Et oui, c'est par la repentance. Par la repentance que le pardon de Dieu nous est accordé. Et nous connaissons bien ce verset de la première lettre de Jean qui dit que si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Il, c'est Dieu, bien évidemment, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. On retrouve les injustices. Oui, la seule façon d'échapper à la colère de Dieu, au jugement à venir est de s'humilier devant Dieu, de reconnaître son péché et de s'en remettre à la grâce de Dieu. Sa grâce qui nous est offerte gratuitement par le sacrifice parfait de Jésus. Sa grâce qui nous est encore offerte ce matin. Chers amis, quoi que nous ayons fait, vous avez peut-être fait des choses dont vous n'êtes vraiment pas fier. J'en ai fait quelques-unes. Quoi que nous ayons fait, et souvenons-nous que le pardon a été accordé à Akab, quoi que nous ayons fait, nous pouvons toujours nous repentir et recevoir le pardon de nos péchés par la grâce de Dieu. Que personne ne s'en prive. Amen.